Donc, ce matin, j'ai pensé apporter quelque chose. Je vous avais dit, il y a deux semaines, que j'allais faire la suite dans Romains 7, mais finalement, en repensant tout ça, je me suis laissé tenter par un message lié à la période dans laquelle nous sommes, qui est à Noël. Hein? On est dans la période de Noël, et donc il y a Noël qu'on va célébrer d'une façon spéciale la semaine prochaine, et là, il y a un avant-Noël, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que je vais apporter ce matin. La bonne nouvelle derrière la bonne nouvelle de Noël. Hey, c'est-tu beau ça, hein? J'ai travaillé fort là pour ce titre-là. Là. Amen. Donc, quelle est la bonne nouvelle derrière la bonne nouvelle de Noël? La bonne nouvelle de Noël, c'est quoi? Jésus est né. Un sauveur nous est donné. Hein? Ce qui sera un sujet de grande joie pour le peuple. Parce qu'à travers ce sauveur, naturellement, on allait avoir accès à Dieu, on allait pouvoir avoir le pardon de nos péchés, être réconcilié avec Dieu, avoir l'espérance de la vie éternelle, d'une vie nouvelle et de la nouvelle alliance et de tout ce qui vient avec. Alors ça, c'est fantastique. Donc, quelle est la bonne nouvelle derrière la bonne nouvelle de Noël? Matthieu 1, 1 à 6. Qu'est-ce qui est Matthieu 1, 1 à 6? Et là, j'ai mis aussi le verset 16. C'est la généalogie de Jésus-Christ. Combien aime ça lire des généalogies dans la Bible? Vous passez avec soin vous, chaque nom, et là, il y en a des multitudes de noms, puis là, vous les nommez tous, puis là, vous êtes tellement heureux de lire Matthieu 1 ou d'autres chapitres dans l'Ancien Testament en particulier où il y a beaucoup de généalogies. Alors, dans la généalogie, il y a des petites pépites d'or, et donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, et là elle est en gras, Pharès et Zara, Pharès engendra Esron, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, pas Salomon, mais Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Elle est en gras. Moïse engendra Obed de Ruth. Moi, si j'avais un garçon, je l'aurais appelé Obed. Parce qu'à tous les soirs, je lui aurais dit, Obed. Go to bed. Obed, you go to bed right now. J'aurais parlé en anglais, naturellement, là. Il me semble que ça aurait été comme puissant. À chaque fois qu'il aurait entendu son nom, Obed, il aurait pensé, « Oh, faut-tu que j'aille me coucher, là? » Alors, engendra Obed de Ruth, et Ruth est en gras. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Elle est en gras. Qui est la femme d'Uri, même si elle n'est pas nommée? C'est Bathsheba, on le sait à cause du récit dans l'Ancien Testament. Et là, le dernier verset qu'on pourrait dire de cette section de la généalogie, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, qui est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ et qui veut dire Messie, donc le Messie promis. Donc, excusez, j'ai pas avancé ma diapo. Il y a quatre candidates improbables dans la généalogie de Jésus. Pourquoi improbables? Bien, parce qu'elle ne fit pas, humainement parlant. Ces quatre femmes-là, ces quatre femmes en plus, et en passant, il n'y a pas juste des femmes qui ne fit pas dans la généalogie, il y a aussi plusieurs hommes qui ne fit pas, dans le sens que on ne s'attend pas à trouver dans la généalogie du Messie des personnes avec un tel arrière-plan, avec une telle faillite morale, avec une histoire honteuse. Et c'est un peu ce qu'on va regarder brièvement sur chacune de ces quatre femmes qui font partie de la généalogie. Une autre raison aussi pourquoi ça ne fit pas, ces quatre femmes-là, c'est que normalement, dans la généalogie, c'est toujours de père en fils. Les femmes ne faisaient pas partie normalement de la généalogie. Pourtant, elles le sont dans la généalogie de Jésus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au temps de Jésus, une généalogie, c'est un peu comme aujourd'hui notre CV. Tu sais, quand tu as un CV, qu'est-ce que tu mets dans ton CV si tu vas avoir un poste à tel endroit, mettons Hydro-Québec ou Vidéotron ou quoi que ce soit, tu appliques pour une job, puis là, tu espères que tu vas avoir l'emploi. Puis là, ton CV, tu sais, dans le fond, tu mets quoi dans ton CV? Tu mets des choses qui vont te mettre en valeur, n'est-ce pas? Qui vont rehausser ta capacité ou ta valeur aux yeux de l'employeur. Bien, une généalogie, c'est un peu comme un CV au temps de Jésus. Puis là, normalement, tu sais, on va mettre les meilleurs éléments pour se vanter, parce que ceux qui parlaient de leur généalogie dans le temps de Jésus, bien, ils disaient, hey, moi, je descends d'un tel, puis d'un autre tel, puis d'un autre tel, puis lui, il a fait telle affaire, puis il a fait un grand exploit, puis il a une belle réputation. Vous comprenez, ça faisait partie de qui j'étais, de mon identité. Donc, c'est quand même surprenant de trouver de telles personnes, en plus des femmes, pas parce que les femmes sont moins que des hommes, c'est juste qu'il faut comprendre la culture dans laquelle tout ça se passait et que c'était pas habituel, c'était hors commun. Et en plus, comme Tamar. Bon, Tamar, Genèse 38, elle était une non-juive, probablement une cananéenne, qui est devenue l'épouse de Er. Et Er, son mari, son premier mari, il est mort sans avoir d'enfant. Et la Bible dit, la raison pour laquelle il est mort, c'est que c'était une personne de vraiment de très mauvais caractère, dans le sens immoral ou d'une mauvaise personne qui offensait l'Éternel. Et Dieu, autrement dit, a mis bref à ses jours. Et là, plus tard, elle est devenue l'épouse de son frère, parce qu'à l'époque, quand un frère décédait puis il n'avait pas eu d'enfant, ben là il y avait comme une obligation que le frère marie l'épouse de sa sœur pour lui donner une postérité. Ça faisait partie des exigences de la loi. Alors son frère Onan a refusé de donner une postérité à son frère. C'est ça que le texte nous dit. Et là il est aussi mort, et donc pas d'enfant. Les deux frères étaient des fils de Judas. Et là, le texte nous dit que Judas avait un troisième fils, il s'appelait Shéla. Et par peur de le perdre, donc là, Judas, il dit, écoute, ça fait deux de mes fils là, qui meurent avec ta mort, alors là, je prends pas de chance, puis là, je dis à ta mort, ben prends ton temps, tu sais, retourne dans ta maison, puis attends. Il est pas prêt encore. Quand il va être prêt, ben on verra. Tu sais, c'est un peu ce qu'il dit. Alors, elle, voyant que son beau-père n'allait pas demander à son fils Shéla, son troisième garçon, de la marier et de lui donner des enfants, elle décida de prendre les choses en main. Donc ici, on voit pas sa foi du tout, mais on voit sa détermination. Elle trompa son beau-père Judas, qui lui, entre-temps, est devenu veuf, en prétendant être une prostituée pour qu'il accepte de coucher avec elle. Elle se déguise, puis là, elle s'en va à un endroit où là, normalement, il y a des prostituées, puis là, lui, il apprend qu'il y a une femme, elle est là, puis il peut aller vers elle. Alors, il est allé vers elle, elle est tombée enceinte, puis elle a donné naissance à des jumeaux. Mais elle est smart, Tamar, parce qu'elle a pris quelque chose qui appartient à Judas. L'homme qui a couché avec elle. L'homme qui est le père de ses deux enfants-là. Il n'y a pas de test d'ADN dans ce temps-là. Mais tu vois, elle a quand même pensé d'avance qu'est-ce qui pouvait arriver. Alors, elle a eu deux garçons, Pérette et Zéra, ou Zérak. Personne ne paraît bien dans cette histoire. Judas est pas ben plus brillant là-dedans. Ça sent la cupidité, ça sent la tromperie, ça sent l'hypocrisie, ça sent la prostitution, ça sent l'immoralité sexuelle et ça sent même l'inceste. Quand on considère tout ça, là. Alors, cette histoire en est une de tromperie et de faiblesse humaine à son apogée. C'est dur de penser à pire que ça. Et là, que des gens comme Judas et Tamar fassent partie de la généalogie du Messie envoie un message fort sur la pure grâce de Dieu qui était déjà présente, même dans Genèse ici, 38. Aucun d'eux ne mérite de faire partie de la généalogie de Jésus, on s'entend, qui est celle du Messie. Pourtant, les deux sont bien mentionnés dans la lignée du Messie. Deuxième candidate, c'est Rahab. Et ça, on voit ça dans Josué 2. Elle est une Cananéenne, qui est la nation ennemie et détestée d'Israël. Et elle est souvent mentionnée dans la Bible comme Rahab, la prostituée. Et là, son exploit, sa plus grande œuvre, a été de raconter un mensonge et de cacher deux espions juifs sur son toit en échange de la liberté et de la sécurité pour elle et toute sa maison. Une prostituée, une cananéenne, une menteuse, mais aussi et heureusement, elle est mentionnée dans Hébreux 11:31 comme étant une femme de foi. Donc, jusqu'à ce moment-là, et après ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Elle a fait ce qu'on lui a dit de faire pour être sauvée, c'est-à-dire attacher le cordon de cramoisi à sa fenêtre, ce qui démontrait sa foi. Et à sa grande surprise, elle fait partie de l'arbre généalogique du Messie. Ça, c'était pas mentionné au moment où tout ça se passait. Et pourtant, elle est bien là dans Matthieu 1. Alors, Rahab, la prostituée, est devenue l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. C'est quand même pas n'importe quoi. Une prostituée. Wow! Ruth. Oh, c'est ainsi qu'une cananéenne et prostituée entra dans la lignée du Messie. Ruth. Chapitre 1 à 4. Alors, Ruth, on l'a même étudié, il n'y a pas si longtemps, dans le contexte de Libération 21. C'est une Moabite qui est encore là, une nation qui est née de l'inceste, donc particulier, qui est devenue aussi un ennemi d'Israël. Dans Genèse 19, on voit l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre. En ce jour terrible, Lot s'échappe de Sodome avec sa femme et ses deux filles. Qu'est-ce qui arrive? On sait que sa femme a regardé en arrière, qu'elle n'aurait pas dû, puis elle a été transformée en statue de sel. Mais Lot et ses filles, eux autres, ont trouvé refuge dans une grotte. Ses filles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont conspiré. Elles ont saoulé leur père. Et elles sont allées vers lui pendant le temps qu'il était en état d'ébriété. Elles ont couché avec lui et les deux sont tombée enceinte. Une a nommé son fils Moab et l'autre a nommé son fils Ammon. Ces deux garçons nés de l'inceste ont grandi pour fonder des nations qui sont devenues incroyablement mauvaises et ennemies d'Israël. Les Juifs haïssaient les Moabites et les Ammonites et ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Le livre qui porte son nom, Ruth, raconte la relation qui s'est épanouie entre elle, une Moabite, et Boaz, un Israélite, qui était dans la lignée pour marier, justement, parce que c'était encore même le même principe de donner à quelqu'un une descendance qu'il n'a pas eu avec son épouse. Alors, lui, il vient et il fait le rôle de Joël, pas Joël, notre Joël, mais le côté du rachat. Alors, il utilise son droit de rachat et là, il va marier Ruth, la Moabite, et ensemble, ils ont eu un fils qu'ils ont nommé Obed. Et là, ce fils-là a eu un fils Jesse qui a eu un fils David. Alors, Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de David. C'est ainsi qu'une Moabite, une nation haïe et ennemie d'Israël, a aussi entré dans la lignée du Messie. Quatrième femme, Bathsheba, dans 2 Samuel 11 et 12. Elle est juive, mais le texte nous montre aussi, ou le récit, qu'elle est devenue une femme adultère. Elle n'est pas mentionnée par son nom en Matthieu 1, mais c'est clairement elle, puisqu'elle est identifiée comme étant la femme d'Uri. L'histoire d'adultère entre le roi David et Bathsheba est très connue et est devenue même célèbre à travers une chanson. Savez-vous laquelle? Hallelujah! De Monsieur Cohen, Leonard Cohen, dans sa chanson Alléluia, il en fait mention de cette chanson-là, puis il mélange les histoires bibliques à travers ça, là, mais il fait mention de cette situation-là. Lui, il l'attribue à Samson, en tout cas, toute une affaire, là. Mais elle est connue, Bathsheba, et l'adultère, vous savez, a pas été la pire chose, même si c'est épouvantable, là. Dans le contexte du roi David, qui avait plusieurs femmes en plus en tant que roi, et qui là va chercher la femme d'un autre. Mais là, en plus, on voit dans le texte que pour couvrir son péché, David, l'homme au cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manigancé, il a utilisé son influence, sa position de roi pour ses intérêts personnels. Et là, il a manigancé pour que le mari de Bathsheba, Uri, puisse aller au front et s'assurer qu'il aille assez loin pour qu'il ne revienne pas vivant. Avant ça, il a essayé des affaires, là. Il voulait qu'il aille vers sa femme, faire croire que peut-être c'est lui le père de l'enfant, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Mais ultimement, ce qu'il a fait, dans le fond, il a été jusqu'à commettre un meurtre. Alors, tout ça est une histoire horrible. Et pourtant, Bathsheba épousa David, elle est devenue aussi, parce que le premier, l'enfant qui de l'union d'adultère est décédé, mais ensuite, il a marié Bathsheba, elle est devenue la mère de Salomon, qui était le roi le plus sage qui a existé, nous dit la parole de Dieu, et le fruit d'une union qui a débuté avec l'adultère. Donc, c'est quand même spécial qu'on voit ces différentes choses dans la parole de Dieu. C'est ainsi qu'une femme adultère a entré dans la lignée du Messie. Donc, 4 candidates improbables. 3 sont non-juives et impliquées dans une forme d'immoralité sexuelle. 2 sont impliquées dans la prostitution. 1 est adultère. Tous les 4 sont dans la généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de telles femmes pour faire partie de sa généalogie? Et comme j'ai dit tantôt, faut pas oublier que Abraham n'a pas nécessairement une histoire reluisante à tous égards. Isaac, la même chose. Jacob, David, comme on vient de voir aussi. Judas et d'autres. Maintenant, la première chose pourquoi que ces femmes-là sont là, c'est confondre ceux qui aiment faire la morale aux autres. Faut pas oublier que l'évangile de Matthieu, tu sais, il y a 4 évangiles. Et l'évangile de Matthieu a été écrit pour un auditoire particulier, qui était les Juifs eux-mêmes. Et là, c'est pour ça qu'il commence avec la généalogie de Jésus, parce que il voulait expliquer clairement que Jésus est venu à travers ce que la parole de Dieu avait dit, que le Messie devait venir à travers la lignée de David. Donc, on voit que l'auteur prend soin de faire ça, mais il mentionne ces femmes-là dans sa généalogie. Alors, beaucoup des Juifs, des chefs, entre autres, des pharisiens et autres, sadducéens et scribes, étaient des propres justes qui facilement jugeaient les autres. Et on voit comment ils ont accueilli Jésus, comment ils ont été offensés par toutes sortes d'affaires que Jésus faisait, disait. Alors, eux, les pharisiens, ce qu'il faut comprendre, et les Juifs à l'époque, et c'est un peu ce que Paul dit dans Romains 9, pourquoi les Juifs qui cherchaient une loi de justice n'ont pas parvenu à la loi de justice, tandis que les païens, les non-Juifs, qui avaient des vies tout croches, sont arrivés à la justice de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un l'a cherché par les œuvres de la loi, c'est-à-dire, il pensait mériter avec leur obéissance, avec leur régularité et rigorosité, ça dit-tu ça? Rigueur, en tout cas, vous comprenez? Le fait qu'ils étaient rigoureux dans toute l'application des détails de la loi, qu'avec ça, ils auraient la vie éternelle, qu'ils méritaient d'avoir une place auprès de Dieu. Et même les disciples, à un moment donné, qui a dit, quand Jésus a dit, c'est plus dur à un riche de passer par le trou d'une aiguille que d'entrer qu'un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu. Là, ils ont dit, mais qui peut être sauvé? C'est ça, non? Non, OK, en tout cas, j'ai mal lu, mais vous comprenez, hein? Je voulais juste voir, vous étiez avec moi, là, puis je vois que vous connaissez les Écritures. Mais pour les disciples, ils disaient, ben voyons donc, là, qui peut être sauvé? Pourquoi? Parce que si les pharisiens sont pas sauvés, ben là, voyons donc, c'est les justes, les plus justes des justes. C'est eux qui sont le plus proches de tout ce que Moïse a enseigné. Si eux autres, ils n'ont pas accès au royaume de Dieu, c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Hein, je l'ai, hein? Ah ah! Là, je savais que vous me surveillez comme faux, là. Ah, là, je suis en train d'upgrader ma game, là. Alors, pour eux, c'était impensable. Mais c'est ça, la généalogie de Jésus. Déjà là, en partant. C'est pas une question de mérite. Il mérite pas d'être là. En fait, personne ne mérite d'être là. Peut-être Joseph, qui, comme on voit, il avait une vie exemplaire. David, ben, il s'est repenti. OK, il s'est peut-être rattrapé dans ce sens-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'ici, il y a des gens qui devraient pas être là. C'est tout simplement le gros bon sens, si c'est sur la base de mérite. Alors, on peut dire ceci. Jésus vient d'une famille dysfonctionnelle. Ouais. Y en a-tu ici qui viennent d'une famille dysfonctionnelle? Vous dites, hey, moi, si j'avais pu avoir une famille fonctionnelle, il me semble que je serais ailleurs. Moi, j'ai vécu une fois une affaire épouvantable. J'étais dans une famille fonctionnelle. J'étais là pas en pension, là, mais j'étais là, en tout cas, je restais là pour quelques semaines. Puis à un moment donné, cette famille fonctionnelle se réunissent un vendredi soir. Moi, j'étais encore là, là. Mais cette famille fonctionnelle-là, ça joue tout de la musique. Ça confesse tout le nom de Jésus. Puis moi, je suis là. Puis là, je vois cette scène devant moi. Là, je suis bouleversé, je suis remué à l'intérieur, je vois la beauté de cette belle dynamique. Puis moi, je joue pas de musique, tu sais, peut-être un petit peu de cuillère sur le bord de la table, taper du pied, j'aime chanter. Mais vous comprenez, moi, je peux pas faire partie de la game. Si j'aurais joué la musique, je suis certain qu'ils m'auraient inclus avec eux. Fait que moi, j'étais un spectateur, mais un spectateur qui, là, en peut plus. À un moment donné, je me suis levé, j'étais allé dans le sous-sol, dans ma chambre, puis là, j'ai pleuré. Et là, j'ai dit à Dieu, je comprends pas. Comment ça fait que moi, j'ai pas eu ça? Comment ça fait que moi, je suis le 9e d'une famille de 10, j'étais invisible dans ma famille. Moi, j'ai été négligé, j'ai pas été aimé. Comprenez? Délinquant à l'adolescence, en prison un peu plus tard, à l'âge adulte, jeune adulte. Donc, rien. Tout nu. T'es un tout nu, moi. Rien. Et là, j'ai lu dans la parole de Dieu. Savez-vous ce que j'ai lu dans la parole de Dieu? Il n'y a point de distinction entre les Juifs et les Grecs, car ils ont tous le même Dieu qui est riche en miséricorde. Et là, j'ai senti la consolation du Saint-Esprit. Là, ce texte-là est devenu un peu comme Joël priait, là, que Dieu rencontre nos cœurs, là, qu'il y ait une parole qui vienne saisir mon cœur, toucher mon cœur, impacter ma vie. Là. Mais je vous dis, ça a changé à ce moment-là. Je me suis dit, wow, Dieu, c'est mon papa du ciel. Je suis son enfant. J'ai peut-être pas cette bénédiction-là, puis je suis heureux pour eux autres. Ah, tellement heureux pour eux autres. Moi, je l'ai pas eu, ça. Mais j'ai le même Dieu qui est riche en miséricorde. Amen! Amen. Alors, confondre ceux qui aiment faire la morale aux autres. Deuxième raison pourquoi ces femmes-là font partie de la généalogie de Jésus ou du Messie, c'est d'exposer l'étendue et la richesse de la grâce de Dieu. Vous savez, lorsqu'on vient d'une famille dysfonctionnelle, on peut pas tellement se vanter de notre héritage. Nos ancêtres étaient peut-être des gens importants, influents, mais ils étaient aussi de très grands pécheurs. Et là, plus quelqu'un a fait de quoi d'honteux, plus c'est même difficile de s'associer. Mais pourtant, ici, il y a une prostituée. Pourtant, ici, il y a un adultère. Pourtant, ici, il y a un meurtrier. Pourtant, ici, il y a un menteur. Est-ce qu'une prostituée peut faire partie du plan rédempteur de Dieu? Est-ce qu'un adultère peut faire partie du plan rédempteur de Dieu? Est-ce qu'un meurtrier peut faire partie du plan rédempteur de Dieu? Eh bien, Rahab et David font partie de la généalogie du Messie. Et Rahab était une prostituée puis une menteuse, puis David était un adultère puis un meurtrier. Et ils en font partie. En examinant l'histoire de ces quatre femmes et des hommes qui sont aussi sur la liste, ce qui devrait nous frapper n'est pas leur péché ou la gravité de leur péché, le dégoût, l'espèce de crotté, de salaud. Même Judas, là, l'espèce de Judas. Là. C'est-tu ce qu'il voulait faire, Judas, avec ta mort? Il voulait qu'elle soit lapidée, la prostituée. Quand il a appris que c'était prostituée, parce que là, il a appris la nouvelle. « Hey, tu sais-tu quoi? Ta mort, c'est prostituée. Mais quand meurt l'espèce de... Oui, je veux pas l'avoir dans ma famille. » Puis là, Tamar a dit, « Dites à Judas, ben ceci appartient à l'homme avec qui j'ai couché. » Et le « ceci », c'était à Judas. Hypocrite! N'est-ce pas? Et pourtant, il fait partie de la généalogie de Jésus. Voilà, c'est l'étendue de la richesse de la grâce de Dieu. Vous savez, le vrai héros de ces histoires qu'on voit de l'Ancien Testament, ben c'est Dieu lui-même, tout le temps. Sa grâce brille à travers les ténèbres du péché humain. Et une des choses qu'un archéologue était venu... j'oublie son nom, là, je lis au bout de la langue. Là. Tu sais, il est chrétien, il est venu ici, là, puis... Comment il s'appelle, là? Il est célibataire. il était dans le bout de la Turquie, là, ces endroits-là. Guy Leduc, voilà, Guy Leduc. Vous savez, ça m'a tellement frappé quand il était venu ici. Et vous savez, une des caractéristiques qui montre que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, puis qu'on peut se fier aux textes qui sont là, c'est que toutes les autres nations, quand il y a des faux pas, quand il y a eu de la, ils ont eu des défaites, ils ont eu autrement dit, des choses honteuses, ça fait pas partie des récits de ces peuples-là. Mais, tout à coup, on lit les Écritures, on lit l'Ancien Testament, et toutes les mauvais coups, tous les échecs, toutes les failles que des rois et prophètes et le peuple d'Israël ont faites, c'est tout fidèlement rapporté. Ça, c'est pas humain. Parce que les humains, on met pas ces choses-là dans notre CV. Oui, j'étais congédié à telle place. Ah oui, ben insubordination. Ben oui, ben j'étais pas d'accord qu'il me fasse travailler telle affaire, puis c'était pas correct, puis c'était pas juste, puis moi je voulais pas. Fait qu'il m'a mis dehors parce que j'ai pas voulu insubordination. Mais en fait, c'est parce que je voulais pas tricher. On met pas ça dans un CV. Pourquoi on met pas ça dans un CV? Ben, on sait que là, regarde, il comprendra pas, il voudra pas me prendre, je vais être chouchou au maire pendant longtemps. Vous voyez? Et pourtant, ici, tout est mis. Et ça, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer la grandeur de Dieu. La grâce de Dieu. Comment Dieu, lui, il fait avec. Comment il est capable de faire sortir un joyau de quelque chose qui devrait être un chaos. Et ça, c'est fantastique. Et c'est le dernier point, attirer nos cœurs au vrai super-héros de l'histoire, qui est naturellement le Seigneur Jésus. Et ça, ça fait partie de la bonne nouvelle, avant la bonne nouvelle de Noël. Vous savez, dans Luc 15, 1, ça dit que Jésus était l'ami des pécheurs, c'est-à-dire des publicains, qui étaient les collecteurs de taxes, qui avaient une très mauvaise réputation parce qu'ils étaient réputés aussi pour être des voleurs, et des gens de mauvaise vie. Jésus était l'ami de ces gens-là, ce qui scandalisait naturellement les pharisiens. Et dans Luc 19, 10, ça nous dit que le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ceux qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades. Et ça, on le voit ici dès l'Ancien Testament et dans la généalogie du Messie. On a juste besoin de venir à lui. Alors, quelle est cette bonne nouvelle derrière la bonne nouvelle de Noël? Et là, la première chose, c'est que peu importe votre passé, Jésus peut vous sauver et vous inclure dans sa grande histoire de la rédemption. Je peux faire partie de son histoire. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, si vous avez compris le vrai sens de Noël, bien, vous faites partie de l'histoire de Jésus, de l'histoire de la rédemption. Et ça, c'est un privilège immense. Et peu importe votre passé, et je vous dirais ceci, plus vous êtes non méritoire, bien, plus vous pouvez vous réjouir que Jésus est venu pour vous. Et savoir que c'est pour vous qu'il est venu, particulièrement parce que vous êtes non méritoire. Tout ce que vous avez besoin, c'est de venir à lui et de le reconnaître comme votre sauveur personnel, de placer votre confiance en lui, et lui, il va faire le reste. Deuxième chose, l'espoir existe pour ceux qui souffrent, ceux qui sont oubliés et ceux qui viennent de contextes dysfonctionnels ou qui sont même eux-mêmes dysfonctionnels. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dysfonctionnelles dans l'arbre généalogique de Jésus. Il y a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de douleurs. On peut voir ça partout là dans la généalogie. Quand on replonge dans ces histoires-là, on peut s'imaginer là comment les gens ont vécu des choses terribles, horribles. Et pourtant, Jésus les a inclus dans sa généalogie. Cette liste de personnes improbables est possiblement le plus grand exemple dans toute la Bible de la richesse et de la grandeur de la grâce de Dieu. Dieu braque les projecteurs de sa grâce sur des hommes et des femmes qui ont manqué leur coup, et à travers leurs erreurs et leurs péchés, nous voyons ce que la grâce de Dieu peut faire. Et ça, c'est amen, merci Seigneur. C'est une très bonne nouvelle que de savoir que Jésus est venu pour nous. Peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, il y a de l'espoir et Jésus veut nous sauver. Jésus veut nous inclure dans son histoire et qu'on puisse faire partie de ce qu'il y a pour nous. Je termine avec ceci. Mais l'ange dit au berger, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à venir et on va prier ensemble pour terminer. Peut-être on peut même se lever. Je vais vous inviter à vous lever. On peut célébrer la bonne nouvelle derrière la bonne nouvelle de Noël ce matin. Seigneur Jésus, on vient devant toi tel que nous sommes. Seigneur, c'est une vérité profonde que de voir que déjà dans le passé, déjà, Seigneur, peu importe qui on était, peu importe ce qu'on avait vécu, peu importe ce qu'on avait fait, Seigneur, il y avait une possibilité d'être gracié par toi. Et même comme on voit avec Rahab, et on le voit aussi avec Ruth, toutes les deux ont placé leur foi en toi, Seigneur. Ils sont même mentionnés comme étant des femmes de foi, des femmes qui ont trouvé en toi le salut pour leurs âmes. Et Seigneur, on veut te remercier de ce qu'encore dans cette période dans laquelle nous sommes, le Seigneur, ça nous rappelle la raison pour laquelle tu es venu. Et tu es pas venu, Seigneur, pour des justes, tu es venu pour des injustes. Et ce matin, Seigneur Dieu, si tu veux t'adresser, si tu veux toucher le cœur de un ou une des personnes qui entendent ce message ce matin. Seigneur Dieu, ouvre leur cœur, ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent venir à toi, pour qu'ils puissent te remettre leur vie, remettre le gâchis de leur vie, ou remettre, Seigneur, leur déception par rapport à des choses qu'ils ont faites ou des choses qu'ils n'ont pas faites, des choses qu'ils ont vécues, des choses pour lesquelles ils sont encore honteux et qui portent encore un certain stigma, Seigneur, dans leur âme, qu'ils auraient dû être une meilleure personne, faire de meilleurs choix et t'offrir de meilleurs cadeaux, Seigneur. Aide-les, ô Dieu, ce matin, à venir à toi tels qu'ils sont, tels qu'elles sont. Parce que toi, Seigneur, tu nous prends tels que nous sommes. Et c'est toi maintenant qui veux être glorifié. Tu veux être le super-héros de notre histoire. Et tu veux qu'on confesse ton nom et qu'on dise que quoi que ce soit de bien qui se passe dans ma vie, que je fais, maintenant les décisions que je prends, maintenant la direction vers laquelle je m'en vais, tout ça maintenant, je le fais parce que Christ est mon sauveur, parce que Christ est dans ma vie, parce que je lui ai donné ma vie et que je veux le suivre. Ô Seigneur Dieu, puisses-tu par la puissance de ton Saint-Esprit ce matin nous visiter et tourner des cœurs vers toi. Et que de la louange monte dans nos cœurs et qu'on se rappelle encore cette bonne nouvelle pour laquelle tu es venu. Merci, Seigneur Jésus, de ta grâce. Merci de ton amour. C'est en ton nom, Seigneur, que je t'ai prié pour ta gloire. Amen.